En ce mois de juin 2026, Microsoft a fait une chose complètement impensable. L'entreprise a ouvert grand les portes de son écosystème ultra fermé, tu sais, de Word et d'Excel, pour y laisser entrer ses concurrents directs, et ça de manière totalement native. Pourquoi l'une des entreprises les plus protectrices de ses parts de marché déciderait-elle soudainement d'inviter d'autres intelligences artificielles au cœur même de son infrastructure?
Eh bien, cette décision trahit un changement de paradigme vraiment profond. En fait, l'objectif, c'est plus du tout de posséder le modèle d'intelligence artificielle le plus intelligent.
D'accord.
Non, c'est de posséder l'espace où l'utilisateur travaille. La bataille s'est complètement déplacée. On est passé de la création du moteur vers le contrôle du tableau de bord.
Bon, décortiquons tout ça. Le point de départ de notre session d'aujourd'hui, c'est l'édition de la mi-juin 2026 de la newsletter Veil IA France. C'est la lettre BISQI, pour être précis.
Ouais, une excellente ressource d'ailleurs.
Exactement. Et à la lecture de ces notes, qu'elles soient techniques, économiques ou réglementaires, il y a une bascule fondamentale qui saute aux yeux pour notre audience. L'IA, c'est plus du tout ce petit chatbot isolé dans un onglet de navigateur qu'on consulte vite fait de temps en temps.
Non, c'est fini ça.
On a affaire à des agents autonomes qui prennent le contrôle de nos outils quotidiens. Et ça, ça déclenche des ondes de choc énormes sur la souveraineté des données et sur la conformité légale.
Tout à fait. Et le vocabulaire même des annonces industrielles de cette semaine d'été le confirme, hein. L'industrie de la tech acte vraiment la fin de la phase d'expérimentation. Je veux dire, les grands groupes licencient et ils restructurent et ils déploient ces agents à une échelle purement industrielle. Ce qui se passe sous le capot des modèles dicte directement cette réorganisation globale.
Et justement, regardons un peu ce capot. Cette intégration massive dans les entreprises, elle s'explique par un saut qualitatif impressionnant au niveau de la fiabilité de ces modèles.
C'est clair.
Prenons la mise à jour d'OpenAI, par exemple. Depuis le 12 juin, la transition vers GPT-5.5 Instant s'est faite automatiquement. Et l'ancien modèle GPT-4.5 a carrément une date de fin de vie programmée pour le 27 juin.
Déjà, oui.
Mais ce qui retient l'attention, c'est cette affirmation d'une baisse de 52,5% des hallucinations sur les requêtes à enjeux élevés. On parle de la médecine, du droit, de la finance. OpenAI va jusqu'à affirmer que ce nouveau modèle bat les médecins lors de leurs évaluations internes.
Ouais. Et l'ajout d'un module de prononciation audio natif dans plus de 60 langues complète cette mise à jour. Ça rend l'interaction quasiment humaine.
Ah ouais, c'est bluffant.
Et la mécanique derrière cette réduction des hallucinations, en fait, elle repose sur une refonte totale de l'architecture de traitement des données factuelles. Le modèle ne se contente plus de prédire le mot suivant de manière juste statistique. Il croit sa prédiction avec des bases de connaissances qui sont vérifiées en temps réel. Et ça, juste avant de générer la réponse.
Mais penchons-nous deux secondes sur ce chiffre de 52,5% de réduction. Parce que, pour ceux qui nous écoutent, l'industrie considère qu'on sait déjà ce qu'est une hallucination. Tu sais, cette tendance des modèles à inventer des faits avec un aplomb incroyable.
Oui, le fameux ton hyper confiant.
Voilà, c'est ça. Mais si OpenAI réduit ce problème de moitié et surpasse les médecins, le piège ne devient pas encore plus dangereux là.
Comment ça?
Il reste quand même près de la moitié des erreurs potentielles. Sauf que l'interface est devenue tellement fluide, tellement autoritaire dans son ton, que l'utilisateur aura juste plus le réflexe de vérifier quoi que ce soit.
Ah, je vois.
Pour moi, le risque, c'est de voir ce biais d'automatisation poussé à l'extrême. En gros, c'est comme si on passait d'un stagiaire très confiant qui inventait parfois des faits à un expert senior très rigoureux, mais qui peut toujours se tromper lourdement sans qu'on s'en rende compte.
C'est une excellente analogie. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant ici, c'est l'approche technique d'Anthropic pour répondre à ce danger précis.
Vas-y, dis-nous.
Sorti. Même si, concrètement, ça permet d'ingérer une base de code entière et de recracher une application fonctionnelle dans la foulée.
Ce qui est déjà dingue en soi.
Exactement. Mais leur vraie parade contre ce biais de confiance aveugle, c'est l'intégration de ce qu'ils appellent la réflexion adaptative.
Et comment cette réflexion adaptative fonctionne en pratique ? Parce que jusqu'à présent, pour qu'un modèle raisonne un peu, il fallait souvent lui demander explicitement, genre de réfléchir étape par étape ou d'activer un mode spécifique.
C'est ça. Eh bien, imaginons une boîte de vitesse automobile, d'accord ? L'ancienne méthode, c'était le conducteur qui devait s'arrêter pour enclencher manuellement les quatre roues motrices face à une pente raide.
OK.
La réflexion adaptative de Claude Fable 5, elle agit comme une transmission automatique ultra-sensible. Le modèle analyse la charge cognitive de la requête de l'utilisateur dès les tout premiers mots.
Ah, directement.
Voilà. S'il détecte une question complètement triviale, il reste en vitesse de croisière pour économiser l'énergie de calcul. Mais s'il identifie un problème logique ou complexe, il rétrograde, il alloue massivement plus de puissance de calcul à cette requête spécifique et il effectue plusieurs cycles de vérification interne avant même de formuler sa réponse. Et tout ça de manière totalement invisible pour l'utilisateur.
C'est fascinant parce que ça explique aussi comment ils réussissent à s'intégrer directement dans l'écosystème Apple sur iOS 27 et macOS 27.
Exactement.
En ajustant dynamiquement la puissance requise, le modèle peut décider de traiter une partie de la réflexion sur le processeur local du téléphone, pour aller vite, et d'envoyer le reste sur le cloud uniquement si la charge cognitive l'exige vraiment.
Et cette flexibilité architecturale, elle permet aussi le déploiement de leur nouveau Cloud Code Artifact. C'est-à-dire que le modèle génère des tableaux de bord interactifs qui s'exécutent directement dans le navigateur via une simple URL.
Sans passer par un hébergement complexe, du coup.
C'est ça, il n'y a besoin de rien. La puissance de calcul s'adapte au support de lecture.
Et cette capacité d'adaptation, en fait, elle modifie totalement la manière dont on interagit avec les logiciels aujourd'hui. Dès l'instant où ces modèles savent gérer leurs propres réflexions de manière autonome, ils sortent de cette fameuse fenêtre de chat pour envahir nos suites bureautiques.
Absolument.
On assiste littéralement à la guerre des agents autonomes en ce mois de juin. Le concept central, c'est plus du tout la discussion, c'est la délégation.
Et Google a vraiment ouvert le bal en passant de Gemini 3.5 Pro en disponibilité générale. Mais la vraie nouveauté architecturale chez eux, c'est la séparation des processus.
C'est-à-dire ?
Ils déploient un agent qu'ils ont nommé Spark. La mécanique est assez simple. Pour les tâches qui nécessitent un lent temps de traitement, genre l'analyse de plusieurs dizaines de rapports financiers, Spark prend la requête, il se détache de l'interface utilisateur et il travaille en arrière-plan.
D'accord, pendant qu'on fait autre chose.
Exactement. Pendant ce temps, le mode Extended, qui est désormais gratuit, gère les requêtes nécessitant une réflexion profonde et un agent appelé Delibrief synthétise le tout à la fin. C'est une restructuration complète du temps de travail.
Le flux de travail change radicalement, c'est clair. On n'attend plus bêtement devant un curseur qui clignote. On donne ses instructions le matin à l'agent Spark, et paf, Google Sheets, qui intègre maintenant Gemini nativement en français d'ailleurs, se remplit tout seul en tâche de fond.
C'est ça.
Mais la riposte de Microsoft, pour moi, c'est ce qui bouscule le plus l'échiquier. Copilot 365 annonce une vitesse d'exécution augmentée de 50%, des fonctions comme le mode plan sur Excel, super pratique pour valider les étapes d'une transformation avant qu'elle s'applique, ou encore la délégation de la prise d'appel sur Teams.
Ouais.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La vraie rupture, c'est ce fameux sélecteur de modèles dont on parlait au tout début.
Oui. L'interface de Microsoft propose désormais à l'utilisateur de choisir carrément le moteur qui fera tourner Copilot.
C'est fou.
Au lieu d'imposer son propre modèle ou celui de son partenaire historique, OpenAI Microsoft, permet de sélectionner Claude Opus 4.8 d'Anthropic pour, disons, une analyse syntaxique fine ou GPT 5.5 Instant pour générer du code super vite. Et tout ça directement depuis l'interface Word ou Excel.
C'est un peu comme si Copilot, c'était plus un restaurant avec un menu fixe, mais plutôt une grande cuisine avec plusieurs chefs étoilés. Et on peut choisir son chef selon le plat qu'on veut. C'est un aveu de la part de Microsoft que la guerre se gagnera pas sur un modèle unique et omnipotent.
Totalement.
Il transforme Copilot en une sorte de routeur intelligent, quoi.
Et on voit bien que la pression, elle vient en grande partie de Perplexity. Les notes de BizQI rapportent quand même 45 millions d'utilisateurs actifs pour Perplexity et 1 milliard de requêtes par mois.
C'est gigantesque. Et le 19 juin, ils activent la fonction Deep Research sur leur agent computer. Et le coup de grâce, c'est que cette recherche profonde s'intègre, elle aussi, nativement dans Word et Teams. Mais pardon, d'un point de vue stratégique, en laissant Perplexity s'installer dans Word, Microsoft ne prend pas le risque énorme de voir son propre copilote se faire dévorer de l'intérieur.
Alors, si l'on relie ça à la situation globale, c'est un calcul à long terme qui est très froid de la part de Microsoft. Aravind Srinivas, qui est le PDG de Perplexity, a récemment affirmé que la course à l'IA ne se gagnerait plus sur le nombre de paramètres, mais sur la rétention quotidienne de l'attention de l'utilisateur. L'utilité brute, quoi. Et Microsoft l'a très bien compris. S'il force un utilisateur à utiliser un outil moins performant, cet utilisateur, il va juste fermer Word pour ouvrir Perplexity dans son navigateur.
C'est logique.
Donc, en permettant à Perplexity de s'exécuter directement dans Word via une clé API en arrière-plan, l'utilisateur ne quitte jamais la suite bureautique de Microsoft. Microsoft devient le système d'exploitation incontournable de cette nouvelle ère, l'infrastructure de base sur laquelle tous les agents viennent se brancher.
Ah ouais, vu comme ça. Et ça explique aussi l'annonce de Perplexité au salon Computex concernant leur nouveau navigateur, Comet. Ce navigateur intègre ce qu'ils appellent une orchestration hybride.
Exactement.
En gros, ça veut dire que lorsqu'on fait une requête, le navigateur décide tout seul, en une fraction de seconde, si les données peuvent être traitées localement sur la puce de l'ordinateur, pour des raisons de confidentialité ou de vitesse, ou si elles doivent être envoyées sur les serveurs distants de Perplexité.
Où transitent les données. Et c'est très exactement ce qui provoque une levée de boucliers de ce côté-ci de l'Atlantique.
Tu m'étonnes.
Si des navigateurs et des suites bureautiques américains décident du routage des données industrielles en coulisses, la souveraineté européenne est compromise par construction.
Ce qui nous amène naturellement à la contre-offensive française, qui est massive en ce mois de juin 2026. Face à cette infrastructure américaine qui capte l'intégralité des flux de travail, on voit que la France tente d'imposer une alternative structurelle. Fin mai, Mistral AI a carrément rebaptisé son assistant le chat pour l'appeler Vibe.
Oui, un changement de nom assez discuté d'ailleurs.
Et l'entreprise est valorisée à 11,7 milliards d'euros, ce qui est le signe que les investisseurs croient vraiment à cette troisième voie. Vibe propose un work mode pour les tâches administratives et un code mode qui est nativement intégré dans l'éditeur VS Code. Les partenariats avec Airbus ou BMW montrent une vraie pénétration dans l'industrie. Mais l'information cruciale pour moi, c'est la commande de l'État. 1 million de fonctionnaires français vont être équipés de Mistral Vibe.
Et ça, 1 million d'agents sur les 5,7 millions que compte la fonction publique, c'est un vrai basculement systémique. Le choix du gouvernement français ne repose pas sur une simple comparaison de puissance pure entre, disons, GPT 5.5 et les modèles de Mistral.
Non. C'est sûr.
Le critère décisif, c'est l'épanchéité de l'infrastructure. En déployant un outil souverain, l'État garantit que les données des citoyens ou les documents administratifs sensibles ne sont pas soumis à l'arbitrage hybride d'un navigateur américain dont on parlait à l'instant et qu'ils restent bien sous la juridiction stricte du RGPD.
C'est un peu comme si le gouvernement décidait, genre du jour au lendemain, de remplacer toute sa flotte de véhicules officiels par des voitures électriques de fabrication 100% nationale.
C'est une bonne comparaison, oui.
Mais ce volet matériel, il est accompagné d'un volet de formation sans précédent. Le 12 juin, le journal officiel a publié le décret du plan Oselia, doté d'une enveloppe de 200 millions d'euros. L'objectif affiché est titanesque. Former 15 millions de professionnels et équiper 80% des PME françaises d'ici 2030. Le texte détaille des mécanismes très administratifs, avec des prises en charge par le CPF, le compte personnel de formation, allant jusqu'à 5 000 euros pour des programmes certifiés Calliope ou inscrits au RNCP.
Et l'utilisation de tout ce jargon administratif, Calliope, RNCP, ça illustre parfaitement la méthode européenne. Là où la Silicon Valley déploie un outil mondial juste en appuyant sur un bouton, l'administration française construit une infrastructure réglementaire lourde, oui, mais pour s'assurer que la formation répond à des normes d'État.
Mais attends, regardons les chiffres avec un tout petit peu de recul pour notre audience. 200 millions d'euros divisé par 15 millions de professionnels à former, en faisant le calcul, ça représente à peine un peu plus de 13 euros par personne.
Oui, vu comme ça.
Face aux milliards de dollars brûlés chaque mois par OpenAI ou Google, rien qu'en puissance de calcul, ce budget semble presque dérisoire. Comment ce plan peut-il avoir un quelconque impact face à la force de frappe financière de la tech américaine ?
Eh bien, cela soulève une question importante. Parce que ce calcul brut masque l'objectif réel du plan. Ces 200 millions d'euros, ils ne sont pas destinés à acheter des cartes graphiques pour entraîner des modèles concurrents.
Ah bon ?
Non, c'est avant tout un budget de défense culturelle et de résilience face à la désinformation. L'enjeu n'est pas technologique, il est cognitif. Et il y a une anecdote dans la newsletter qui illustre parfaitement cette urgence, c'est l'affaire du chaton Fat.
Ah oui, ce canular, c'est un vrai cas d'école. Au moment où Mistral a renommé son interface le chat en Vibe, des petits malins ont immédiatement profité de la confusion pour lancer une fausse interface nommée le chaton Fat sur les réseaux sociaux. Et l'interface imitait parfaitement les codes visuels d'une IA souveraine.
Exactement. Et des milliers d'utilisateurs s'y sont connectés en pensant utiliser l'outil officiel, partageant potentiellement des données professionnelles ultra sensibles avec une entité totalement inconnue.
C'est effrayant quand on y pense.
Ce canular, il prouve que la véritable faille de sécurité lors d'une transition technologique de cette ampleur, elle n'est pas dans le code du logiciel, elle est dans l'incapacité des utilisateurs à authentifier l'outil. Former 15 millions de professionnels, ça ne veut pas dire leur apprendre à taper de jolis prompts.
Bien sûr.
Ça signifie leur apprendre à auditer les sources, à comprendre l'architecture qui se cache derrière l'interface et surtout à ne pas céder leurs données au premier tableau de bord un peu convaincant.
C'est vital. Et cette volonté d'encadrer et de réguler, elle se heurte violemment au calendrier industriel actuel. Le décalage entre la vitesse de déploiement de ces agents autonomes et la réalité économique et légale, ça crée une tension extrême.
Tout à fait.
D'un côté, on a cette course folle à l'intégration dans Word, Teams ou VS Code, et de l'autre, bah, la veille des BSQ comptabilise plus de 150 000 suppressions de postes dans le secteur de la tech au niveau mondial depuis janvier 2026.
Valorisation de Mistral ou de Perplexity, il révèle la nature de la restructuration en cours. L'industrie détruit massivement les emplois d'ingénierie logicielle traditionnelle ou de gestion de projets intermédiaires.
Pour faire quoi de cet argent ?
Eh bien, le capital est transféré de la masse salariale vers le financement de cette fameuse infrastructure agentique. Une entreprise n'a plus besoin de 100 développeurs pour maintenir une base de code. Si l'agent de Perplexity ou le code mode de Mistral génère et vérifie l'architecture en arrière-plan en quelques secondes, c'est une destruction créatrice brutale.
Et cette destruction créatrice avance à un rythme vraiment effréné. Mais elle est sur le point de percuter le calendrier réglementaire européen de plein fouet. On a un compte à rebours. La date limite de conformité pour le fameux AI Act est fixée au 2 août 2026 pour tous les systèmes classés à haut risque.
C'est demain, oui.
La loi exige des déclarations de conformité super strictes, des analyses d'impact approfondies sur les droits fondamentaux et une traçabilité totale des décisions algorithmiques. C'est comme si on construisait un train à très grande vitesse, genre GPT ou Gemini, pendant que les inspecteurs de sécurité sont déjà sur les rails avec un chronomètre à la main.
L'AI Act agit vraiment comme un frein d'urgence conceptuel. Alors que le marché pousse les entreprises à déléguer tout leur processus aux agents pour survivre face à la concurrence, la loi les oblige à marquer une pause.
Mais c'est presque impossible à appliquer, non ?
C'est là toute la difficulté. Comment prouver la conformité d'une décision RH ou d'une décision financière si, comme on l'a vu avec l'orchestration hybride de Perplexity ou avec le sélecteur de modèles de Microsoft, l'infrastructure change le moteur de réflexion d'une milliseconde à l'autre sans aucune intervention humaine ?
Bah oui, c'est insoluble.
Cette friction entre l'obligation légale d'explicabilité et la nature hyperdynamique de ces agents autonomes, c'est ce qui va définir les tout prochains mois.
Donc, si on synthétise, en reconstituant le puzzle de ce mois de juin 2026, la trajectoire, elle est claire. Le modèle d'interaction a muté. On est passé des petites boîtes de dialogue toutes simples à des agents en réseau.
Oui, les fameux Spark, Vibes ou l'agent computer.
Voilà. Leur capacité de raisonnement s'ajuste dynamiquement à la volée, comme on l'a vu avec la réflexion adaptative de Claude Fobel 5 ou GPT 5.5. Ils opèrent désormais depuis l'intérieur même de nos logiciels de production et ils sont orchestrés par une infrastructure de routage invisible gérée par nos navigateurs et nos suites bureautiques.
Exact.
Et face à ça, bah, la France et l'Europe tentent de maintenir l'intégrité de l'information par des déploiements souverains massifs, on l'a dit avec le million d'agents publics sous Mistral, et par la force du droit avec les AI Act. Alors pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tout ça signifie au fond ? Pourquoi c'est vital ?
Parce que la maîtrise technique pure, elle passe désormais au second plan. La valeur ajoutée d'un professionnel ne réside plus dans sa capacité à exécuter une tâche logicielle, puisque de toute façon, l'agent le fera beaucoup plus vite. La compétence critique de demain, ça devient la capacité de conception architecturale et d'audit. Face à un problème métier, la vraie question, c'est de savoir quel modèle invoquer selon la sensibilité des données et surtout, par quels moyens on va vérifier le résultat produit par un système qui est conçu, littéralement, pour imiter la perfection factuelle.
C'est très juste. D'ailleurs, cette question de l'orchestration hybride soulève une pensée assez vertigineuse pour finir.
Laquelle ?
Quand notre navigateur Comet ou notre interface copilote bascule tout seul d'un modèle à l'autre en fonction de la charge cognitive, quand il décide de lui-même d'envoyer nos données sur un serveur californien ou de les garder sur notre puce locale, à quel moment est-ce qu'on finira par perdre totalement la trace de qui ou de quoi prend réellement les micro-décisions dans notre travail quotidien ?
C'est la grande question.
Si l'outil s'adapte en permanence en coulisses pour lisser notre flux de production sans rien nous dire, est-ce qu'on aura encore la capacité de savoir si le texte final de notre rapport est le fruit de notre propre réflexion guidée par l'IA ou juste le fruit d'une négociation silencieuse entre deux agents autonomes qui tournent en tâche de fond ?
Ça laisse songeur.
C'est clair. C'est une réflexion qu'il est indispensable de mener à mesure que ces agents s'installent confortablement dans nos disques durs. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Continuez de questionner les interfaces qui vous entourent, de scruter la mécanique sous la surface et à très bientôt pour décrypter les prochaines secousses de cet écosystème en pleine ébullition.